Histoire d'archives, dernière émission de l'année 2019. Bonjour Jean-Christophe Labadie, qui est directeur des archives départementales. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, vous êtes venu la semaine dernière, vous avez fait une belle conférence sur un livre qui est paru, qui est distribué et qui est en vente aux archives départementales sur la Haute-Provence au gré du temps.
Oui, en effet, donc la semaine dernière, nous avons présenté donc exactement jeudi cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif, hein, qui a pour ambition de montrer, en fait, selon un principe qui s'appelle la photolalie, de montrer des images anciennes et une image d'aujourd'hui prise dans les mêmes conditions, avec le même cadrage et le même angle, pour justement voir les évolutions qui ont marqué le siècle de différence entre les clichés. Alors on a choisi 75 communes pour justement traiter de ce sujet. Alors c'est un travail en fait au départ qui est une exposition et d'ailleurs qu'on peut toujours voir aux archives départementales, qui concerne d'ailleurs beaucoup plus que les 75 communes retenues. C'est donc le service éducatif Lucie Chélan et Bérangère Suzoni qui se sont lancés sur les routes du département pour justement, à partir d'un travail documentaire fait d'images anciennes, justement de retrouver un petit peu ce qu'il était possible de faire, et quelquefois c'était très difficile, mais on en reparlera je pense plus tard. Donc l'idée c'était vraiment de faire des comparaisons. Donc c'est une exposition qui montre plusieurs centaines de photographies, et puis donc l'idée après c'était d'en faire une publication, car le problème des expositions c'est que si on n'a pas un support écrit, bien on en perd le souvenir, on en perd la trace, et finalement c'est un travail qui est quand même un investissement très lourd en termes de temps, de moyens humains, matériels, intellectuels aussi. Donc on s'était dit donc ensemble qu'il serait peut-être bon de faire un ouvrage. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc comme vous l'avez dit Jean-Marc, c'est un ouvrage qu'on trouve aux archives départementales, qui coûte 15 euros comme toutes nos publications, qui fait 160 pages, qu'on peut acheter par correspondance, les frais de port étant compris dans le prix, qu'on trouve aussi dans une librairie du centre-ville de Digne-les-Bains, donc à la Ruelle en l'occurrence. Voilà, donc c'est vraiment ce travail collectif qu'on a voulu présenter. Alors il y a plusieurs auteurs en fonction des sujets. On avait sollicité un petit peu les responsables du conseil départemental, donc le service départemental d'archéologie, mais aussi l'archiviste de Manosque, la responsable de la maison-musée de Colmar, voilà, qui évidemment a évoqué Colmar. Voilà. Donc on a essayé justement de balayer au plus large le département, en ayant comme souci, évidemment, c'était une des difficultés de notre choix, de prendre des images qui soient de bonne qualité, aussi bien les anciennes, forcément, parce que malheureusement, souvent, ce sont parfois des cartes postales qui sont des tirages vraiment difficiles à exploiter. Et puis, la difficulté, donc, c'était aussi de reproduire ce qu'on voyait autrefois, avec toutes les conséquences que ça a aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, des fois, la végétation qui l'empêche, mais aussi des voitures, la signalisation routière, voilà, donc, qui évidemment, j'allais dire, pollue un petit peu l'image, en tout cas, rendre difficile ces clichés. Donc, on a retenu finalement 75 communes, ce qui n'empêche pas, on a quand même une petite idée derrière la tête, c'est de se dire qu'au fond, il y a aujourd'hui 198 communes et que peut-être on pourrait envisager un tome 2, sachant que le tome 2 serait plus difficile que le tome 1, puisque le tome 1, c'était la facilité, puisque c'était les clichés les plus faciles à exploiter. Donc après, il faudra qu'on se creuse un peu la tête si on veut continuer ce projet pour essayer de couvrir toutes les communes et pour qu'il n'y ait pas de mécontents dans le département. Parce que effectivement, vous savez, c'est toujours comme ça. Quand on fait quelque chose, il y a l'aspect positif, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui voient effectivement qu'on évoque leur commune, leur lieu, leur vie, et puis d'autres qui disent mais ma commune n'y est pas, et donc évidemment c'est un problème. Alors après, il faut toujours penser que quelqu'un peut être né quelque part, comme le dit la chanson, et habiter ailleurs, vous voyez, avoir des parents ici. Donc je pense qu'en fait les Bas-Alpins se retrouveront dans ces 75 communes qui couvrent de Barcelonnette jusqu'au sud du département, Moustier, l'est et l'ouest. Donc je crois, voilà. Alors la deuxième chose, c'est qu'on ne pouvait pas se contenter seulement de clichés photographiques. Ce n'est pas un livre d'images, c'est un livre qui combine en fait des images et des histoires. Donc on a essayé de raconter, ça c'était toute notre été, en l'occurrence, d'essayer d'écrire justement 75 histoires, donc petites histoires, hein, qui font une page au maximum, puisque l'idée, c'est la page de gauche, ce sont les images, la page de droite, c'est l'histoire. Et donc, sur les sujets les plus divers, parce que là encore, il y a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas fabriquer les archives qu'on n'a pas. Et donc, il faut trouver à chaque fois, pour chaque commune retenue, une histoire. Et ça, c'était encore un critère de sélection, sachant qu'on ne pouvait pas raconter toujours la même histoire pour chacune des communes de ce livre. Donc il fallait varier. Alors on ne pouvait pas faire tout, à chaque fois l'église, vous voyez. Donc on a fait une fois l'église, une fois le lavoir, une fois la poste, etc. Voilà. Donc, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure.
Et pour ces histoires, vous avez pu récolter quelques témoignages ?
Alors en fait, non, on a vraiment travaillé sur... Alors, à part le service d'archéologie qui, lui, évidemment, a traité d'un point de vue archéologique les sujets, donc grâce à leur travail, en fait. Hein, pour le reste, ce sont que des histoires qui sont tirées d'archives. Donc il y a réellement un document hein, qui a trait, par exemple, à l'installation d'une poste. On a vraiment les pièces qui relatent cette affaire-là, hein, donc avec les difficultés que ça a présentées à l'époque, puisque installer une poste, ce n'est pas si simple, à quelles que soient les époques. On en a deux, au moins, dans mon souvenir. Et il faut trouver un local, il faut loger, évidemment, les agents, il faut que, évidemment, cette poste soit reliée, hein, puisqu'à l'époque, ce n'est pas qu'une poste, hein, ce n'est pas que le courrier, c'est aussi... le téléphone et le télégraphe, hein, ce sont les PTT. Voilà, donc on a essayé vraiment de trouver des histoires à chaque fois, des histoires un peu originales. Donc en fait, dans ces cas-là, en fait, la solution, soit on pioche dans ce qu'on connaît déjà, soit on fait les séries hein, de manière systématique. Alors on a heureusement beaucoup d'archives, hein, surtout qu'on a traité beaucoup en fait d'histoires contemporaines, c'est-à-dire 19e, 20e siècle. On n'a pas été tellement au-delà, donc c'est plus simple en termes...
Pour les photos de là, c'est plus compliqué.
Oui, aussi. Ça aurait été plus compliqué, mais même pour raconter des histoires, vous voyez, parce qu'on aurait pu effectivement raconter une histoire au XVIIIe siècle avec un village vu effectivement au XIXe, mais c'est vrai que vous avez raison, hein, on a été obligé de coller avec la photographie, puisque le principe au départ, c'était de quand même de... On l'a pas toujours fait, mais de traiter de ce qu'on voit sur la photographie, vous voyez. On voit un lavoir, de parler de ce lavoir, vous voyez, donc on a heureusement des séries importantes, comptabilité communale, qui appartient au fond de la préfecture. Et donc on a dedans ce qui concerne les églises, le cimetière, les lavoirs, enfin tous les équipements publics, le monument aux morts, etc. Et donc effectivement, grâce à ça, déjà, on a une base. Après, on a des séries, la série T, où une sous-série est consacrée aux beaux-arts. Donc là, on a des monuments, vous voyez. Donc voilà, on a réussi quand même, en balayant à peu près de manière un peu systématique nos séries, à trouver 75 histoires. Voilà. Au départ, on était sur 60. Hein. On en a rajouté 15, on s'est dit 60, ça fait 120 pages, ça fait un petit livre. On avait les moyens, on avait les outils, pour les moyens, les ressources pour faire 15 histoires supplémentaires assez facilement, puisqu'on avait quand même aussi toujours une question d'échéance. On voulait que ce livre sorte cette année, en particulier pour Noël, parce que pour nous, c'est un peu un livre cadeau, c'est un livre... anecdotique, hein, ce sont pas, je dis, ça va pas révolutionner l'histoire du département, mais voilà, en fait, en lisant ces 75 histoires et en regardant ces images, on voit quand même, on voit se dessiner quand même une histoire générale du département. Compte tenu du fait que justement on a essayé de balayer tous les domaines, je parlais de la poste, on a aussi parlé des équipements électriques, vous voyez, on a essayé vraiment de voir toutes les transformations, les routes du 19e siècle.
La gendarmerie.
Voilà, la gendarmerie, bien sûr. Hein,
de Turiès.
De Turiès, voilà, alors Turier ou Turiès, hein, toujours la question qui s'est posée, voilà, donc savoir si on prononce le S final ou pas, voilà. Donc ça, c'est un sujet, effectivement. On a débattu pendant un quart d'heure sur ce sujet-là, enfin pas que sur Turiès d'ailleurs, hein, ou sur Turier, mais sur d'autres communes. Voilà, je pense qu'un jour il faudra d'ailleurs qu'on fasse quelque chose autour de la prononciation des noms de lieux, entre effectivement les usages locaux, l'usage général et puis peut-être l'histoire, mais c'est compliqué évidemment, on n'a pas de traces comment les choses étaient forcément prononcées autrefois. Hein, là je travaille en ce moment, alors, je suis en train de digresser complètement, je pars sur un autre sujet, je travaille actuellement sur les... sur un projet d'exposition de l'année prochaine, hein, mais qu'on évoquera, je pense, à la rentrée. Et je constate qu'évidemment, les toponymes, donc les noms de lieux, évoluent très largement, simplement au XIXe siècle. Hein, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des toponymes qui sont en fait des transcriptions de toponymes différents, beaucoup plus tôt autour de la Révolution et autour du cadastre napoléonien. Oui, donc voilà. Donc c'est pour ça, pour dire que c'est un sujet aussi en soi. Voilà. Alors pour revenir donc effectivement au sujet, donc vous avez parlé de la gendarmerie, hein, des gendarmes de Turiès, mais il y a évidemment tous les équipements, les questions des routes, les questions donc des secours aussi, des églises, parce que évidemment on est dans un pays quand même, un département qui est pauvre, hein, le 19e siècle, donc il y a évidemment des édifices qui sont en mauvais état, et en particulier des églises qui sont quand même l'élément patrimonial le plus important dans les petites communes. Vraiment, c'est l'église, hein, qui est là, qui est installée depuis longtemps, qui est construite depuis longtemps.
C'est un peu le cœur du village.
Exactement, bien sûr. Et donc, du coup, il y a effectivement des tentatives de rénovation, des histoires autour des églises. Hein, il y en a une très belle que j'ai cité justement lors de cette présentation de l'ouvrage. Voilà, donc il y a tous ces sujets. Évidemment, on a aussi évoqué le passage de Napoléon, hein, pour Barème et Maliget. Vous voyez, enfin voilà, on a essayé vraiment de croiser petite histoire, grande histoire, mais toujours avec une vision un peu anecdotique, mais qui je pense, présente un certain intérêt.
Mars 1815, mais c'est encore là quand même.
Pardon ?
Mars 1815, mais c'est encore là.
Oui, 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 voilà. Voilà. Donc voilà. Donc pour nous, c'était une très belle expérience parce que, effectivement, je vous le disais, au départ, ce n'est qu'une exposition de photographie. Et puis finalement, oui, ça. Alors qui devait d'ailleurs rester quelques mois seulement et qui est en fait depuis.
Prolongation.
Oui, depuis un an et demi maintenant, hein, qui vraiment a beaucoup de succès parce qu'en fait, on constate que les personnes viennent. En ce moment, on fait beaucoup de communication autour de l'affaire de l'Ours, évidemment. Donc viennent pour l'affaire de l'Ours. Et puis très, très vite, après avoir vu l'affaire, ils se déportent tous vers la deuxième exposition. Et donc, ils sont très attentifs, effectivement, à regarder ces images et à comparer. Parce que je crois que. Qu'on soit du département, d'ailleurs, ou qu'on soit d'ailleurs, je crois qu'en fait, chacun y voit en réalité les évolutions que tous les départements ont connues. Tous ces phénomènes sont hein, c'est à partir de la Révolution, on a quand même une homogénéité. Hein, de l'action de l'État, mais aussi de l'administration en général, hein, l'administration départementale, etc. Donc je pense que chacun y retrouve, même si ce n'est pas le paysage qu'ils connaissent, ils retrouvent évidemment des évolutions qu'ils constatent aussi dans leur département d'origine.
Et pour les cartes postales que vous avez pu trouver, vous avez fait un travail de restauration également ?
Alors en fait, on a, oui, alors là, ce serait évidemment les deux agentes
qui sont les bienvenues à l'antenne.
Voilà, ouais, mais qui viendront un jour, hein, évidemment, en parler, ce sera plus facile, qui ont choisi ces photos. Alors on a évidemment un lot de cartes postales très important. On ne les a pas toutes, hein, il nous en manque toujours. Mais on a aussi beaucoup de photographies, en fait. Il n'y a pas que des cartes postales. Il y a aussi beaucoup de photographies anciennes qui sont rentrées depuis, la plupart depuis 2010-2011. Souvent, d'ailleurs, à l'occasion de ce qu'on appelait la grande collecte à propos de la Grande Guerre. Hein, il y a eu, comme ça, des personnes qui nous ont amené des documents qu'on a pu numériser ou qui sont rentrés dans nos fonds, en dons. Voilà, et donc du coup on a effectivement beaucoup beaucoup de photographies. On en est même un peu on est un peu noyé dans nos photographies parce que la photographie se pose un énorme problème par rapport à un document écrit, c'est qu'on a beaucoup de mal à la dater. Et quelquefois même, on a du mal à repérer l'endroit qui est montré. Voilà, donc c'est un travail énorme. Il faut faire au cas par cas, photographie par photographie, parce qu'en plus, elles ne sont pas rangées. Hein. Vous imaginez, c'est rare d'avoir des pochettes, voyez, qui concerneraient que la route de Barle, par exemple, etc. Donc il y a un travail très important et c'est très compliqué à traiter. Mais c'est passionnant, hein, vraiment, parce qu'en archive, on est habitué, évidemment, à avoir beaucoup de papier. Un peu de parchemin, beaucoup de papier, donc des textes. Et évidemment, c'est toujours merveilleux de voir une photographie de 1870 qui vous montre un village. Alors même si tout ça est un peu posé, hein, évidemment, tout ça est un peu arrangé par le photographe. Hein, ce n'est pas la vie réelle, mais quand même, ce sont quand même les gens qui habitaient là. Ce sont les lieux. Les lieux n'ont pas changé. Ce n'était pas un décor de théâtre. Voilà, donc,
c'est ce que vous disiez lors de la présentation de cet ouvrage. C'est que le photographe mettait en scène des habitants, des locaux, pour que ça donne un petit peu vie au monument.
Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on n'a pas pu faire, nous. Puisqu'en fait, effectivement, vous voyez, oui, c'est encore une limite. C'est-à-dire que quand le photographe, effectivement, veut faire une carte postale, il vient et, comme vous le dites, il met en scène. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les gens, ils posent vraiment, quoi. Hein, ils sont installés dans la rue. Lucie Chélan et Bérangère Suzoni, quand elles sont allées faire les photos, aussi avec Jean-Marc Delaille, hein, le photographe du service qu'on a fait aussi, ils n'ont pas pu demander, d'abord, quand vous arrivez dans les villages... le matin à 11h, vous n'avez pas grand monde, en fait. Hein, déjà, il n'y a plus cette activité qu'il y avait autrefois. Donc déjà, et puis deux, vous ne pouvez pas demander aux personnes de poser, quoi. En même temps, ça rend bien compte de ce que c'est, ce que sont les villages aujourd'hui, en fait. Hein, c'est en fait des lieux où il y a beaucoup moins d'activités qu'autrefois. Autrefois, il y avait les enfants qui allaient à l'école. Maintenant, il y a beaucoup moins d'écoles. Fin 19e, il y a des écoles partout dans le département. Il y en a non seulement dans le bourg central, mais il y a aussi dans les hameaux d'importance. Vous voyez, il peut y avoir 3-4 écoles dans la même commune. Donc vous avez le cri des enfants, vous avez les animaux, vous avez le déplacement, les paysans qui vont travailler, vous voyez, etc. Il y a toutes ces activités, le curé qui n'est pas loin, vous voyez, etc. Tout ça, évidemment, a disparu. Aujourd'hui, on a des villages, souvent, qui sont un peu déserts la journée, en fait, hein, tant que les gens travaillent, évidemment. On voit sur les photographies, effectivement, qu'il n'y a jamais personne, en fait, hein, sauf quelques-unes où on avait un peu de touristes, mais c'est même assez rare. Je prends même des photos, je prends l'exemple de photos qui ont été faites à des lieux plutôt touristiques, et quelquefois on n'a personne, quoi, vraiment. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est tout à fait symptomatique, effectivement, d'une situation aujourd'hui, mais c'est normal. Je reprends mon travail sur l'exposition, la prochaine exposition de septembre. Quand vous regardez les densités d'habitants aujourd'hui, alors elles sont certes beaucoup plus élevées qu'à une certaine époque, mais en réalité, c'est parce que c'est une population urbaine, en fait. Ce n'est plus une population rurale. Hein, les villes au 19e siècle étaient toutes petites. Digne et Manosque étaient des toutes petites villes. Sisteron aussi. Les gens vivaient à la campagne, en fait. Et donc, il y avait du monde. Aujourd'hui, les gens vivent essentiellement dans le bassin, dans la vallée de la Durance et à Digne et autour de Digne, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi là des transformations que les photographies montrent.
Niveau communication, ça transparaissait un petit peu, vu que les gens étaient un petit peu plus dehors, qu'ils pouvaient colporter pas mal de choses, notamment que le photographe venait aussi.
Alors oui. Alors je ne sais pas trop. Effectivement, il faudrait s'interroger sur la démarche des photographes. Hein, ceux qui veulent faire, justement, qui sont des professionnels, hein, qui veulent faire... Parce qu'on a des photographies, comme je le disais, d'amateurs. Hein, je pense, par exemple, à Saint-Marcel-et-Céré, qui est cette magnifique photographie, hein, qui est donc notre couverture, hein, qui est la Sylve de Mison, où on voit... le véhicule hippomobile, hein, de Céric au fond, et sur l'image, en fait, trois personnes qui sont très importantes à l'époque, qui justement amènent de l'information, c'est-à-dire en fait le facteur, hein, qui évidemment est un lien très important entre le local et l'extra-local, le curé, hein, évidemment. Et puis un petit colporteur d'images, hein, qui est là, qui passe et qui vend au porte-à-porte, hein, donc des images que je pense pieuses à l'époque. Hein, mais ce n'est pas sûr, il faudrait voir vraiment regarder en détail. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez l'église, hein, donc de la Sylve, et des voitures garées devant, voyez, et personne. Voyez, donc c'est vraiment tout à fait, vous avez raison, les gens étaient beaucoup plus dehors. Quand vous alliez quelque part, il y avait toujours quelqu'un, en fait. Il y avait des enfants qui jouaient, si c'était pas, il n'y avait pas l'école, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des gens qui circulaient, il y avait les femmes qui étaient au lavoir, vous voyez, enfin voilà. Donc aujourd'hui, tout ça totalement transformé.
Est-ce que de par les photos qu'il y a dans cet ouvrage, on peut voir d'anciens métiers qui sont sur les photos, rémouleurs, par exemple ?
Alors, en réalité, il y en a assez peu, pour une raison assez simple, c'est que il y a eu aussi ce type de photographies qui ont été faites, hein, ce type de photographies qui existaient, donc qui ne consistaient pas donc à montrer des lieux, mais à montrer des métiers, hein, ou des genres. Hein, on faisait aussi des genres, c'est en fait la vieille femme en costume folklorique. Mais dans ces cas-là, on n'a pas le décor, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment la personne. Donc ça existe, hein, effectivement. Vous avez les vieux métiers, le vieux couple de paysans, vous voyez, mais on a très très peu d'écart. Donc du coup, pour nous, ce n'est pas utilisable, puisque en fait, le sujet, c'est les personnes. Or, nous, notre sujet, c'était les lieux. Vous voyez, donc c'était donc c'est vrai. Alors là, on a le colporteur d'image. Hein, vous avez raison. Là, pour le coup, c'est un cas atypique, mais ce n'est pas une photo, ce n'est pas une carte postale. Hein, c'est une photographie d'amateur. Une carte postale, on trouve quand même, hein, je n'aurais pas exagéré non plus, sur les cartes postales, on trouve effectivement des groupes de femmes qui sont en train de laver, par exemple. On trouve effectivement des paysans, mais on trouve peu de petits métiers, comme vous dites, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, souvent, c'était des gens qui ne faisaient que passer. Et donc, c'était difficile, de...
Là, ce moment-là.
Oui, ben voilà, il fallait être là au bon moment. Ça aurait été compliqué. Voilà, donc, en fait, on a très, très peu.
Ouais. Est-ce que vous avez été démarché pour les photos par rapport aux villages, des villages qui vous ont contacté en disant, nous, notre monument, ça serait bien...
Alors, pas du tout, parce qu'en fait, on fait nos affaires secrètes, en fait. Hein, voilà. On n'a pas fait la publicité. Alors, on a fait la publicité de notre exposition, mais quand on a fait le livre, on n'a pas parlé, on fait une surprise. Sinon,
un peu comme le guide pour les restaurants.
Voilà, exactement. En fait, on joue la surprise. Alors, vous avez raison, c'est une question. Hein. Oui, par exemple, je parle du tome 2. Et il est vraisemblable, effectivement, qu'on sollicite... parce qu'il y a des endroits où on n'a pas d'image, en fait. Hein. Il y a des communes où on n'a aucune image à notre disposition. Or, il en existe, évidemment. Dans les familles, il doit en exister. Donc, effectivement, je pense que pour le tome 2, qui ne va pas sortir l'année prochaine, hein, parce qu'on a d'autres projets, mais... ça sera, je vous dis, beaucoup plus compliqué que le tome 1. Je pense qu'effectivement, on fera appel... aux élus, en fait, hein, aux maires, pour relayer justement notre demande d'images, parce qu'il y a évidemment des images anciennes. Alors la question, c'est, les images anciennes, c'est souvent aussi des images de famille, vous voyez, donc on montre des gens, et donc nous, on veut des lieux. Donc ça sera une difficulté, je pense, mais ça nous permettra surtout, nous, de compléter nos fonds, parce que l'idée aussi, toujours derrière tout ça, c'est que c'est de créer des fonds documentaires, en fait, hein, d'avoir, effectivement, sur des communes où on n'a pas d'image, justement, de bénéficier de l'apport des personnes privées.
Nous sommes en hiver, vous avez mené un morceau de circonstance.
Oui, effectivement, on va écouter Babouchka de Kate Bush. Alors, pour moi, c'est un grand souvenir, hein, c'est un souvenir d'hiver 1980-81. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est au camp des Garrigues, près de Nîmes, vous voyez, le jukebox du foyer des soldats. Quoi, voilà. Donc, et en même temps, en dégustant un chocolat bien chaud, parce qu'il faisait extrêmement froid, on ne s'imagine pas comme il fait froid dans certains endroits, même qui sont situés au sud. Voilà.
Yeah.
Voilà, nous étions en pleine steppe avec Kate Bush et son Babouchka sur Fréquence Mistral 99.3. Voilà. On reprend l'émission Histoire d'archives avec M. Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales, qui est venu donc avec cet ouvrage La Haute-Provence au gré du temps. Est-ce qu'il y a eu des villages où vous avez pu aller pour prendre ces photos qui étaient un petit peu plus escarpées, un petit peu moins faciles d'accès ?
Alors c'est vrai, vous avez raison. Quand on regarde les photos, on a des photos d'hiver, de printemps. Il y a des lieux effectivement qui sont assez difficiles. Vous savez, on sait, hein, on est dans un pays de montagne. Et donc évidemment, nous qui circulons quand même assez fréquemment, soit pour justement cette exposition pour le service éducatif, mais aussi pour faire les inspections d'archives communales. Hein, donc, puisque depuis 2014, nous avons fait toutes les communes, et quelquefois deux fois, voire trois fois. Donc on a eu effectivement quelques difficultés, parfois d'aller à certains endroits. Quelquefois même, on a dû en hiver renoncer, mais on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait faire, en fait. Hein. Donc toujours avec cette idée, donc, je regardais pendant notre pause musicale un petit peu hein, le sommaire, d'essayer de toujours trouver des thématiques un peu différentes. Alors là, je vois, par exemple, on a fait un article, donc c'est Sophie Chouyal qui a écrit L'Oloset sous la neige, vous voyez. Donc moi j'étais à Bro samedi pour faire une conférence et là c'était Bro chaud et froid, vous voyez. Donc on a aussi évoqué les questions climatiques, vous voyez. On n'a pas simplement fait que parce qu'on a une carte postale du Lozay sous la neige, ouais, vraiment quoi, hein, voilà. Donc on a parlé tout à l'heure de... Il y en a une, alors oui, on parlait de la cile de Mison, puisque c'est notre couverture, mais, hein, notre couverture, mais on a traité aussi de la maîtresse d'école. On a un très beau... Alors on a évidemment des archives relatives donc, à l'école, mais quelquefois aussi à l'activité de l'école. Ce n'est pas simplement la construction de l'école, vous voyez, hein, ou son aménagement, ou ses réparations. Et en l'occurrence, on avait les cahiers, on a des cahiers d'appel, et puis on a aussi des évaluations. Et là, on avait une maîtresse qui était quand même assez sévère, hein, qui considérait quand même que les élèves avaient beaucoup de difficultés, qui considérait que tu ne travaillais pas beaucoup. Voyez. Alors, c'est assez drôle parce qu'on a l'impression que ça ressemble un peu à ce qu'on entend encore aujourd'hui. Voyez. C'est toujours, je crois que c'est un peu la même chose. Hein. On n'est jamais satisfait vraiment de ce qui se passe. Voilà, donc,
oui, Mme Franek qui évoquait des annotations de... d'institutrice, oui. Qui était très sévère, oui. Avec des faits historiques par rapport, oui. À des gamins, oui. Qui n'étaient pas forcément au fait de tout savoir.
Bah, quoi. C'est un peu difficile, vous imaginez, il faut toujours situer le problème, recontextualiser. Vous imaginez des enfants à la fin du 19e, au début du 20e siècle, leur niveau de connaissance extra-locale. Il ne faut pas croire qu'ils savaient moins de choses que nous. En fait, ils savaient autant de choses que nous, mais dans des domaines différents.
Et c'était plus compliqué pour voilà. Qu'ils sachent.
Mais pour le reste, pour l'histoire générale, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les enfants sont beaucoup plus éveillés à ces sujets qu'autrefois. Donc, effectivement, une maîtresse qui avait fait l'école normale, qui avait fait une très belle scolarité, qui s'intéressait évidemment à tous ces sujets. Il y avait un vrai décalage. Mais ce décalage, je crois qu'il est... Alors, on va pas parler du temps présent, mais je crois qu'il a toujours été là, en fait. Hein. Évidemment, il faut ce décalage, puisque le principe, s'il n'y a pas de décalage, c'est qu'il n'y aurait pas d'apprentissage, vous voyez. Donc, voilà. Donc, mais là, c'est vraiment un cas particulier, parce que vous avez des maîtresses qui sont, au contraire... très conciliante, très maternelle aussi. Vous voyez, vous avez toutes les formes, évidemment, hein, comme toujours. Mais celle-ci était quand même... voilà, c'était vraiment intéressant de lire les appréciations qu'elle portait, hein, sur les enfants, qui étaient quand même d'une certaine violence, vraiment. Hein, vraiment la manière de dire les choses. Hein, voilà. On a aussi évoqué... l'agitation, donc c'est Sandrine Strelienberg qui a évoqué son village de Norante, verte Norante, hein, puisque effectivement quand on compare les deux, et ça c'est assez vrai, hein, on voit qu'effectivement le couvert végétal a repris le dessus par rapport à la fin du 19e et au début 20e. Alors même si il faut pas se laisser abuser, aujourd'hui on a des images en couleur, alors qu'à l'époque évidemment on était en noir et blanc, et donc effectivement le vert sort beaucoup plus. Hein, mais c'est vrai aussi pour Laure Franek qui a fait Pierre Vert, hein, et Pierre Vert, pour le coup, il y a le mot vert dans le nom, mais quand on regarde effectivement l'image d'aujourd'hui par rapport à l'image ancienne, c'est sans comparaison. Il y a effectivement beaucoup de végétation, et pourtant, on n'est pas loin du centre de Pierre Vert, vous voyez, on n'est pas, hein, ce ne sont pas des endroits inhabités. Voilà, on a parlé de l'eau. évidemment, à Peiresque par exemple, hein, la question des fontaines, hein, qui est une question fondamentale à l'eau courante, hein, c'est quand même une question de salubrité en fait, publique. Hein, les gens ont besoin de boire de l'eau de bonne qualité, et donc il y a vraiment des efforts qui sont faits pour que les gens puissent bénéficier de fontaines. Ça, c'est le premier usage de l'eau. Et puis le deuxième usage de l'eau, c'est le lavoir. Donc en général, qui est d'ailleurs pas très loin, puisqu'il faut aussi laver le linge. Et tout à l'heure, on parlait de la sociabilité. Les hommes avaient leur forme de sociabilité, hein, qui était en général autour d'un verre de vin. Et les femmes, leur sociabilité, c'est... Un des lieux de sociabilité, c'est évidemment le lavoir, où il y a effectivement les cancans, toutes les histoires qui se racontent. C'est un lieu, un véritable lieu d'échange d'informations. Quoi. Voilà. Donc il y a ces domaines-là, les moulins, les cimetières pour Foulyouz, donc l'agrandissement du cimetière, Ganagobi et son prieuré, puisque c'est l'époque où on restaure Ganagobi. Les églises, donc, comme à Montfort, hein, comme je disais, il y a évidemment quelques églises. Les fontaines, donc je disais, à la mode du Caire, c'est, même le titre, c'est « À la claire fontaine ». Voyez, voilà. Donc il y a effectivement beaucoup de sujets. Les écoles, comme je le disais, hein, c'est pas seulement les maîtresses, mais c'est aussi les écoles, parce que ça, c'est une grande aventure du 19e. Hein. Le 19e, c'est les casernes et les écoles. Alors, évidemment, les écoles, il y en a beaucoup plus. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des écoles partout. On construit des écoles dans tous les endroits. Ce qui est d'autant plus paradoxal que, parallèlement, on a un phénomène qui a commencé dans les années 1840, qui est l'exode rural. Donc on crée des écoles qui vont, pour certaines, fermer assez vite parce qu'il n'y aura plus assez d'enfants.
Et maintenant, on les ferme complètement.
Maintenant, c'est dit. Alors, je ne commenterai pas. Voilà, maintenant, en fait, on fait des regroupements, etc. On a changé le système. Mais comme je le disais tout à l'heure, les modes de vie ont totalement changé. On est beaucoup moins local qu'aujourd'hui. Maintenant, on se déplace en voiture, on fait des kilomètres. Et donc, toutes les choses, tout ça a changé, évidemment. Hein. À l'école, à l'époque, on est vraiment ancré dans son terroir.
Puis pour les écoliers, il fallait qu'ils aillent à pied aussi.
Oui, bien sûr, exactement, bien sûr. Donc il ne fallait pas qu'ils aillent très loin. Voyez, on ne pouvait pas, compte tenu en plus de l'état des routes et des conditions climatiques. Imaginez, moi je vais prendre un exemple, hein, du côté de La Javille, Prats-sur-Léon, etc. Vous imaginez les enfants qui vivaient dans des habitats dispersés, dans des hameaux, les déplacements qu'ils auraient dû faire s'ils avaient dû se rendre au chef-lieu. Ils auraient perdu beaucoup de temps, ça aurait été compliqué. Quelquefois, il n'y a même pas des passages sont complexes parce qu'il y a des crues, on ne peut pas passer parce que c'est des guets, on a un système de guets, vous voyez. Donc, évidemment, tout ça est très important. Et aujourd'hui, les conditions de transport modifient évidemment aussi. Pas seulement les conditions de vie, mais aussi les conditions de transport modifient évidemment les comportements. Donc il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte.
Est-ce que quand vous êtes allé sur le terrain pour prendre ces photos, vous avez pu voir des extensions de bâtiments qui ont été faits au cours du temps ?
Alors, on est frappé parfois de la permanence. Hein. Vous savez, c'est une problématique rupture-continuité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a évidemment des ruptures, la voiture, hein, qui apporte effectivement des modifications dans l'organisation des lieux de vie. Mais les parkings, simplement, hein, oui, vous mettez des grands parkings, tout ça n'existait pas. Mais quand même, c'était un peu notre affiche, hein, c'est un peu l'idée de notre affiche. L'affiche, c'était Thouars, hein, notre affiche d'exposition. Eh bien, Jean-Marc Delaye avait superposé deux images qui avaient presque un siècle d'écart. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, il y a peu de changements parfois. En fait, il y a une vraie permanence de l'habitat. Alors certes, il a été modernisé à l'intérieur, hein, mais quand on regarde les formes générales, finalement, l'église est toujours là. Vous voyez, la mairie n'a pas tellement bougé. Les grands bâtiments qui avaient une certaine qualité n'ont pas bougé. Non, en fait, curieusement, alors évidemment, on traite beaucoup des centres bourgs. Hein, on ne traite pas de l'habitat dispersé, où là, effectivement, on a beaucoup de désertification. En réalité, il y a une vraie permanence. C'est une surprise, un peu. Hein. On pense toujours que les choses évoluent très, très vite. En fait, quand vous allez dans le cœur d'un village, vous avez très peu de... Alors, évidemment, il y a un effet de distorsion. Hein. À l'époque où il y a aujourd'hui des pavillons, il n'y avait rien, et donc il n'y avait pas de photographie. Ouais. Donc, évidemment... Il y a quand même des changements, mais quand je parle de cœur, hein, vraiment, il y a une vraie permanence. Quoi.
Est-ce que, comme apparemment c'est à Manosque, ça a beaucoup changé par rapport à la photo d'il y a un siècle?
Ah oui, là, oui, oui. Alors il y a des endroits, effectivement, qui sont véritablement urbanisées, où certaines choses ont été vraiment changées, le cœur de ville, Manosque, donc c'est l'archéologue qui a évoqué effectivement le château qui était au centre, qui a eu plusieurs fonctions, qui était donc le château des Hospitaliers, qui a été donc effectivement démoli au XIXe siècle. Donc là, évidemment, c'est radical. Mais c'est un cas finalement assez atypique, puisque ailleurs... Alors c'est un peu, j'allais dire, l'avantage des pays pauvres, entre guillemets. C'est-à-dire que, étant pauvre, les choses ont peu changé. On n'a pas mis à la mode, vous voyez. Et donc, du coup, moi, je connais bien la Dordogne, pour en être originaire. Quand vous allez à Sarlat, la chance de la ville, qui est évidemment une ville musée maintenant, c'est que, justement, la pauvreté des habitants a fait qu'on a laissé les choses telles qu'elles étaient, évidemment. Quand cette notion de patrimoine a été mise... en exergue, en valeur, eh bien, forcément. Voilà. Donc ça, c'est une vraie chance aussi pour les villages basalpins qui, finalement, n'ont, pour certains, pire changé par rapport à l'image qu'on peut avoir de ce village autrefois.
Est-ce qu'il y a pu y avoir des statues qui apparaissaient, qui existaient auparavant, qui ont été démolies ?
Alors, les statues... C'est un sujet complexe sur lequel je travaille de manière un peu parallèle. Alors, je digresse totalement là. En fait, à l'occasion d'une demande de recherche d'une personne qui nous a sollicité, cette personne s'intéresse à la destruction des statues pendant la Deuxième Guerre mondiale pour récupérer en fait du métal. Et en l'occurrence des métaux non ferreux, en particulier le cuivre. Donc il y a eu des inventaires qui ont été faits, et alors, où on avait des statues, alors certaines étaient en fonte, donc ils ne rentraient pas dans ce cadre-là, mais celles qui étaient en bronze, en l'occurrence, ils rentraient complètement, et je me suis aperçu qu'en réalité, beaucoup de statues d'hommes de députés, sénateurs, d'hommes qui ont compté dans le département, ont été récupérées, pour être fondu. Alors c'était en fait un processus. Alors, j'en reparlerai une autre fois, mais c'est un processus qui était évidemment lié à l'industrie, en fait, puisque c'était un ingénieur qui s'occupait de ça à Marseille. Et donc, en fait, il y en a quelques-unes qui ont été sauvées, en particulier celle de Gassendi, parce qu'elle avait une valeur... Alors, on gardait celles qui avaient une véritable valeur artistique ou qui... avaient, comment dire, une relation très forte avec leur population. C'est le cas de Gassendi. Donc du coup, celle-ci a été conservée. On en a conservé encore une autre à Fort-Calquier, Berluc Pérussi, et une troisième, j'ai oublié de qui il s'agissait, c'est de Monzay. Voilà. Donc les trois ont été conservés, mais toutes les autres qui rentraient dans le cadre défini par la loi ont été fondues. Alors en principe, elles devaient être remplacées par un moulage, voire par une statue en pierre. Et à la fin, en 1944, on a tellement besoin, il y a une telle pénurie, et puis vous savez que l'Allemagne demande des ressources, demande aux Français des ressources très importantes. Donc il y a une telle pénurie qu'on pense qu'on va effectivement, qu'il n'y a plus d'exception, et que toutes doivent y passer, y compris celle de Gassendi. Et puis la guerre, on est en 1944. Le cours de la guerre fait qu'en fait, ça n'a pas été fait. Mais donc il y a effectivement, oui, pour une chose qui paraît comme ça assez... on pense qu'il y a une permanence, quoi. Oui, en fait, il y a beaucoup de statues qui ont été détruites à cette occasion-là. Voilà, donc il y a effectivement des objets qui ont disparu. Alors c'est des statues ou alors des éléments de décor. Ça pouvait être un décor de fontaine qui rentrait dans ce cadre-là. Voilà. Donc oui, vous avez raison. Il y a aussi des choses qui ont évolué de ce point de vue-là. On parlait tout à l'heure de permanence, mais il y a aussi... Il y a aussi des ruptures, et en l'occurrence, les paysages ont changé quelquefois, et les décors des villes ou des villages ont pu changer aussi.
Donc ça, c'est cet ouvrage en vente aux archives.
Oui, alors il est donc effectivement tout à fait disponible au prix de 15 euros, donc soit à la ruelle, soit aux archives départementales. On peut venir sur place l'acheter, on est encore ouvert, on est ouvert jusqu'au 24 au soir. Après, on ferme entre Noël et Nouvel An. Et puis ensuite, on reprend quelques jours à la rentrée, je crois le 2 et le 3, et après nous fermons au public, on travaille, mais on ferme au public pour travailler sur notre, toujours l'une des questions qui nous agitent depuis 2010, c'est-à-dire le gain de place. Et donc on va travailler pendant 15 jours pour essayer encore de gagner de la place dans nos magasins, car vous savez qu'on a beaucoup d'archives et qu'on a besoin toujours d'avoir de la place. Et le seul moyen d'avoir de la place, c'est de mieux ranger, c'est de rajouter des tablettes, c'est de procéder quelquefois aussi à des éliminations d'archives qui n'ont pas d'intérêt. C'est aussi de reconditionner des archives qui gagnent beaucoup de place et qu'en les rangeant mieux, en les triant, on gagne un peu de place. Donc on fait tout ce travail puisque c'est vraiment pour nous évidemment un souci très important, car je rappelle qu'on reçoit chaque année environ 200 mètres linéaires d'archives, sans compter ce qu'on peut acheter ou ce qu'on peut nous donner, simplement dans les versements des administrations, puisque c'est notre vocation de conserver ces archives, et donc on a besoin en permanence de place. Voilà.
Est-ce qu'il est possible de visiter ces archives en dessous ?
Alors, on le fait. Hein, il y a des groupes, souvent ce sont des groupes qui nous demandent effectivement une visite, une présentation des archives, notre activité, notre métier, nos métiers, puisqu'on a plusieurs métiers. Et puis aussi, donc, effectivement, une visite. Alors, c'est pas en dessous, car c'est au-dessus. Voilà. En fait, c'est vrai que souvent, les archives, c'est en dessous. Ou grenier, ça dépend. Mais pour nous, c'est en fait, ce sont huit magasins qui forment quatre étages d'archives où on conserve à peu près, en fait, on sait exactement, 11 kilomètres. J'arrondis un peu, voilà, essentiellement donc du papier, hein, mais aussi des affiches, des cartes, des photographies, des plaques de verre, et même des bandes magnétiques, des disquettes, enfin voilà, toute forme de support, puisque dans la définition des archives publiques, c'est quel que soit le support. Voilà.
En début d'année, il n'y aura pas d'émission, c'est janvier, février et mars,
oui,
du fait qu'il y a des élections prochainement.
Oui.
Est-ce que cela va impacter votre travail ?
Alors oui, bien sûr. Alors ça, en fait, ça modifie un petit peu notre activité. Dans ces cas-là, donc, on va se recentrer effectivement sur nos fonds. Et puis on va aussi profiter de cette période pour faire des visites d'archives. Car pour nous, c'est important. Les maires, certains maires vont changer. Hein, certaines équipes municipales vont changer, même si les maires peuvent être toujours là. Hein, et donc on a besoin de faire un peu un point, justement, sur la situation des archives détenues par les communes. Car il faut évidemment qu'on puisse s'assurer de la permanence, de la conservation, de la bonne conservation de ces archives, pour que les équipes qui arrivent puissent travailler dans les meilleures conditions possibles.
La prochaine émission d'Histoire d'Archives, donc comme je vous le précisais, ça sera au mois d'avril.
Oui.
Mois d'avril, ça sera très exactement le 16 avril, comme tous les troisièmes jeudis du mois.
Très bien, bah écoutez, rendez-vous le 16 avril 2020.
2020.
Voilà, voilà. Puis j'en profite évidemment pour adresser mes meilleurs voeux à toutes les personnes. Et puis aussi à saluer Laure Franek, qui était donc l'adjointe du service, qui venait le plus souvent ici derrière ce micro et qui a brillamment réussi son passage devant la commission scientifique, d'évaluation scientifique, et qui donc va devenir conservatrice du patrimoine, et donc qui part à partir du 2 janvier à Paris pour une formation de 6 mois, et puis ensuite après les postes seront ouverts pour elle, et on ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais j'espère pour elle évidemment la plus grande réussite professionnelle. Et voilà, je suis très heureux pour ma part de voir que elle a pu évoluer dans son métier, et tout ça, évidemment, cette situation est très méritée pour elle.
Ben merci à Madame Laure Franek, merci Jean-Christophe Labadie. Passez de bonnes fêtes et on se retrouve au mois d'avril.
Au revoir.